get your god here, new each day.
I'd like to buy a god.
What you looking for?
I'd like a nice one.
Not Zeus.
Yeah, this guy across the street is having a special, and he says...
He says the trees and cappuccinos are gods.
Well, I don't want that. How about a god that makes me rich and leaves me alone?
Good. Benevolent and impersonal. Perfect combination.
Well, I don't want him to ever control me.
How do you feel about being your own god?
To find out about the real God, check out notreligion.com.
Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
Nous vous proposons d'écouter Flash sur la Bible. À l'écoute, je vous dis bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Flash sur la Bible. Je suis Franck Doristil, votre ami podcasteur qui vous parle depuis la France métropolitaine. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur nos ondes pour passer ensemble ces précieuses minutes à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous rappelle que l'émission Flash sur la Bible est une courtoisie de Bible ouverte, un site de l'association Parole Certaine, soutenu par l'association des églises Action Biblique de Suisse. À la fin de l'émission, nous vous communiquerons plus d'informations concernant cette association. Hello and welcome to the Digital Gospel Channel, the Radio Ebenezer International. Thanks for joining us today for Christian programming to feed your spirit. My name is Frank Doistil, your brother in Christ, and I pray you will be mightily blessed for your time with us today. Be sure to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com. www.frankradio.podomatic.com. Stay in tune. Ciao ciao e benvenuti a tutti i fedeli amici che ci ascoltano nella città di Roma, la città di Bolzano e la città di Torino. Sono molto felice di sapere che siete ancora qui con noi per trascorrere insieme questo momento di costruzione spirituale. È una nuova trasmissione di Flash sulla Bibbia, un programma che vi aiuta a studiare un poco più la parola di Dio. Malgrado il fatto che sia in francese, ho la certezza che i belli canzoni che vi abbiamo scelto vi faranno molto piacere. Sono il vostro amico pastore, Franck Doristil, per la Radio Cristiana Ebenezer International della Francia. Vous écoutez, bien sûr, cette nouvelle édition de Flash sur la Bible, sur la radio qui prend à cœur votre édification spirituelle. Et juste avant de céder le micro à nos amis de Bible ouverte, je vous propose ce titre de l'artiste Sonia de Melio, qui sera notre invitée dans une prochaine édition de Mykonak, cette rubrique que nous consacrons aux artistes qui annoncent la bonne nouvelle par le moyen de la musique. Sonia de Melio, lève les yeux. Je vous souhaite une agréable écoute. Vous écoutez Flash sur la Bible.
Les enfants qui se moquent en Jésus.
Ton innocence, ne baisse pas les bras, ne garde pas le silence, lève les yeux vers moi. C'était l'artiste Sonia de Melio à l'émission Flash sur la Bible. Nous l'aurons très bientôt comme invité dans la rubrique Mikonak. C'est maintenant le moment d'accueillir nos amis de Bible Ouverte à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la radio chrétienne Ebenezer internationale. Flash sur la Bible.
Le livre de Ruth. Les quatre chapitres du livre de Ruth établissent un lien entre la période des juges et celle de David. Le livre des juges a laissé ses lecteurs sous l'impression d'une déclaration lourde de sens.
En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
En d'autres termes, l'anarchie règne parce qu'il n'y a pas d'autorité établie. Et c'est ainsi qu'il paraît bon à Élimélec et Naomi, un couple habitant Bethléem, de fuir la famine en se réfugiant sur le territoire de Moab. Mais ce qui semble bon aux hommes n'est pas toujours ce que Dieu approuve. Si Dieu a permis la famine, c'est sans doute pour éprouver la foi des croyants dont il veut pourtant prendre soin. Refusant la discipline de la foi, Élimélec fuit la difficulté, un peu comme le fit Abraham des siècles avant lui lorsqu'il descendit en Égypte, aussi pour échapper à la famine, Genèse chapitre 12. Pour Abraham, la fuite ne fut pas une solution. Et dans le récit qui nous occupe, elle ne l'est pas davantage pour Élimélec, puisqu'elle entraîne des conséquences malheureuses. Élimélec et ses deux fils meurent au pays de Moab, laissant derrière eux trois veuves dans l'affliction. C'est alors que Dieu entre en scène. Si le livre des juges décrit les effets désastreux inhérents à l'anarchie, le livre de Ruth raconte les bénédictions consécutives à l'intervention divine lorsque Dieu fait ce qui est bon à ses yeux. Cette histoire est tellement touchante que beaucoup de cœurs ont vibré en la lisant. Aussi, nous vous engageons à en faire tout à nouveau la lecture. On raconte que lorsque Benjamin Franklin, l'homme d'État américain, vint en France, il y a près de 2 siècles, il s'étonna de constater combien la littérature y était prônée et, par contraste, combien la Bible y était dépréciée et même discréditée. Aussi, à la perspective d'une réception organisée en son honneur, engagea-t-il un orateur et il le chargea de lire le livre de Ruth devant ce sélect auditoire. Il avait pris soin, au préalable, de modifier les noms des personnes et des lieux géographiques. La lecture de cette histoire fit tant d'impression que l'orateur fut applaudi avec frénésie. À la fin de la déclamation, les assistants s'approchèrent de Benjamin Franklin pour savoir d'où il avait tiré une pièce littéraire si remarquable. Franklin laissa ses interlocuteurs émettre leurs suppositions et, en fin de soirée, leur précisa dans son discours « C'est de la Bible, le livre que vous méprisez tellement, que j'ai tiré ce splendide récit. » Heureusement que depuis 2 siècles, beaucoup de Français ont remis la Bible à l'honneur et ont découvert à leur tour ce chef-d'œuvre de la littérature israélite. Mais revenons aux faits. Naomi, veuve d'Elimelec, et ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth, sont dans une profonde affliction. Naomi apprend au pays de Moab que Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain. Elle décide alors de retourner à Bethléem. Aussi, dit-elle à ses 2 belles-filles,
« Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Pourquoi viendriez-vous avec moi ?» Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. »
Et c'est ainsi que ces 2 femmes se mettent en route et arrivent à Bethléem. Toute la ville est émue à cause de leur détresse. Naomi reconnaît
« J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. »
C'est l'époque de la moisson. Comme Naomi et sa belle-fille sont dans le dénuement le plus complet, Ruth se décide d'aller glaner dans les champs pour y récolter quelques épis. Elle trouve grâce aux yeux d'un riche propriétaire nommé Boaz. Prenons la peine de lire quelques versets dans le livre de Ruth, chapitre 2, versets 4 à 12.
« Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. » « Et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. »
Boaz est un cousin de Naomi. Et la loi d'Israël engageait les proches parents à prendre soin des membres défavorisés de leur famille, en étendant leur protection sur eux. Pour les deux femmes réfugiées, c'est aussi leur seul moyen de survivre et de ne pas mourir de privation. Aussi, sur le conseil de sa belle-mère, Ruth retourne-t-elle glaner dans le champ de Boaz. Alors s'amorce une touchante idylle, jusqu'au moment où Ruth implore Boaz en ces termes.
« Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. »
Le cœur de Boaz est conquis. Il répond.
« Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. »
Naomi se réjouit d'apprendre que Boaz prendra en main leur cause. Aussi déclare-t-elle à sa belle-fille.
« Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. » Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. »
Et le dernier chapitre du livre de Ruth raconte que cette jeune femme moabite devint l'épouse du riche propriétaire de Bethléem et qu'elle donna naissance à un fils nommé Obed, qui fut le grand-père du roi David. Mais il y a plus. Ce touchant récit fait appel à une application qui nous concerne tous directement. Ruth était une femme moabite. Or, les moabites étaient frappés de malédiction parce qu'ils s'étaient opposés au passage d'Israël lorsqu'il traversa le désert avant d'entrer en Palestine. Elle n'avait donc aucun droit à la bénédiction de l'alliance divine ou aux promesses faites seulement à Israël. Mais un homme exerça sur elle son droit de rachat. Il lui offrit son amour. Il étendit sa protection sur elle. Il l'arracha à son état de malédiction et de pauvreté pour la faire entrer non seulement dans la famille d'Israël, mais à son insu dans la lignée messianique. Car il ne faut pas oublier qu'en devenant la femme de Boaz, Ruth épousa l'arrière-grand-père du roi David, l'ancêtre direct du Messie. N'y a-t-il pas là une splendide image ? L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, chapitre 2, versets 12 et 13.
« Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. »
Effectivement, nous sommes par nature éloignés de Dieu, sans espérance, parce qu'étrangers à son alliance. Mais Christ a sur nous droit de rachat. Plus, il en a usé et il a exercé ce droit par amour. Il en a payé le prix en versant son sang à la croix, nous arrachant ainsi à la servitude du péché, à la domination de Satan, pour étendre sur nous son aile protectrice. D'esclaves, il fait de nous des fils et des filles. De réfugiés, d'orphelins ou de veuves, il fait de nous les riches héritiers de sa grâce. Un peu comme Boaz dans l'histoire de Ruth, Jésus-Christ s'engage à ne se donner aucun repos jusqu'à ce que vous, auditeurs de cette cassette, vous soyez à votre tour entrés dans la grande famille des enfants de Dieu et dans le plan éternel de rédemption que Dieu a conçu. L'Écriture dit
« Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. »
1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20. De son côté, l'apôtre Pierre précise
« Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. »
1 Épître de Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Enfin, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean cite les paroles d'un cantique d'adoration à Jésus-Christ.
tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. « Parce que Christ a été immolé à la croix, il a racheté des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. La validité de son rachat est certifiée par le prix qu'il a payé pour nous, donnant son sang pour que nous soyons arrachés à la condamnation éternelle. Comme l'œuvre de rachat accomplie par Boaz en faveur de Ruth fut reconnue valable par les anciens de la ville de Bethléem, l'œuvre rédemptrice de Christ est juridiquement reconnue par le ciel et le diable n'a pas le pouvoir de la contester. Tous ceux qui croient à la valeur expiatoire du sang de Christ sont arrachés à la mort, soustraits à la condamnation éternelle et sauvés pour la vie et l'éternité. Ne voulez-vous pas exprimer en vos propres termes la prière que Ruth prononça lorsqu'elle dit à Boaz « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat ?» À votre tour, vous entrerez dans la famille de Dieu, vous deviendrez son enfant, et le Seigneur Jésus fera en vous toute chose nouvelle. C'est cette bénédiction que nous vous souhaitons à chacun.
Vous écoutez Flash sur la Bible. Accueillons maintenant l'artiste Joël Philin dans un très beau titre en créole, avant d'aborder la deuxième partie de l'émission autour du premier et du deuxième livre de Samuel. Bonne écoute.
Dieu capte la vie en sens. Sans Jésus, la vie sans sens. Dieu capte la vie en sens. Sans Jésus précieux pour moi, qui a appelé moi, pardonnez-moi, changez-moi, sans cela vie-moi, destinez-moi, l'amour, des jours, fâché contre moi, c'est des moments épuratifs.
Destinez-moi à dans l'enfer.
non moins parler, vivre comme avant, pas aujourd'hui, la vie moins licence, et ni en but, et en direction, place moins celle là, l'éternité.
Jésus est précieux pour moi. Il n'y a que Jésus qui peut donner un sens à notre vie. L'artiste Joël Filin sur la radio chrétienne Ebenezer International. Accueillons les amis de Bible ouverte pour la deuxième partie de l'émission.
Les deux livres de Samuel. Dans le texte original hébreu, les deux livres de Samuel n'en formaient qu'un seul. Nous les envisagerons donc ensemble. Leur rédaction avait sans doute été entreprise par le prophète Samuel, mais d'autres écrivains l'ont ensuite aidé dans cette tâche. Il faut dire que Samuel était un chef de file, le premier de toute une série de prophètes, et qu'il était lui-même le fondateur d'une école de prophètes mentionnée à diverses reprises dans les livres historiques.
Vous avez dit que Samuel fut aidé dans sa tâche de rédacteur. Y a-t-il une raison qui vous permette d'affirmer cela?
Oui, et c'est très simple. La mort de Samuel est mentionnée en 1 Samuel 25. Les récits des livres de Samuel débordent donc de beaucoup le temps du prophète. Ces livres couvrent une importante période de l'histoire d'Israël, non seulement à cause des trois vies exceptionnelles dont ils donnent la biographie, Samuel, Saül et David, mais parce que des changements importants intervinrent alors dans la magistrature du peuple de Dieu. Pendant les premiers siècles de l'histoire d'Israël, le souverain sacrificateur occupait les fonctions suprêmes, tant sur le plan civil que religieux, et cela jusqu'au jour où Dieu rejeta la sacrificature.
Dieu rejeta la sacrificature? Ne l'avait-il pas instituée lui-même?
Oui. Mais les sacrificateurs se prouvèrent tellement indignes de leurs responsabilités qu'il fallut que Dieu les écarte du pouvoir principal. Nous en avons le récit dans les premiers chapitres du livre de Samuel. L'office de sacrificateur est occupé par Élie, E-L-I, à ne pas confondre avec le prophète Élie, E-L-I-E. Cet homme tolère le désordre dans sa maison. Ses fils commettent des abominations en plein sanctuaire. Élie en est affligé, mais il ne sévit pas, prouvant ainsi qu'il honore ses fils plus que Dieu. C'est alors que Dieu choisit Samuel, un jeune garçon qui grandit dans la maison de l'Éternel et à qui il révèle ses plans. 1 Samuel chapitre 1 à 3. Samuel ne néglige aucune des paroles de l'Éternel et il demeure seul témoin établi par Dieu lorsque les Philistins, ennemis d'Israël, capturent l'Arche de l'Alliance, ce coffret d'or qui symbolisait la présence de l'Éternel, et lorsque les deux fils d'Élie meurent sur le champ de bataille. Les chapitres 4 à 7 décrivent la situation tragique d'Israël après sa défaite devant les Philistins. Dieu frappe ces derniers de diverses plaies jusqu'à ce qu'ils renvoient l'Arche en Israël. Mais Israël ne s'en soucie guère, et l'arche demeure oubliée pendant 20 ans dans un champ. Et soudain, un mouvement de l'Esprit de Dieu convainc les Israélites de pécher. Ils font appel à Samuel, qui prie pour eux. 1 Samuel, chapitre 8. Puis ils s'approchent du prophète pour demander qu'un roi soit établi à leur tête.
Au fait, pourquoi est-ce que les Israélites n'avaient pas eu de roi auparavant?
Pendant les premiers siècles de son histoire nationale, Israël considérait l'Éternel comme son roi. Mais il porta ses regards sur les autres nations et il voulut les imiter. C'est toujours dangereux lorsque les croyants envient le sort de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et hélas, l'Église de Jésus-Christ n'échappe pas à ce danger aujourd'hui. Samuel fit connaître aux Israélites les droits de la royauté et leur montra qu'en réclamant sur eux un roi, ils rejetaient Dieu lui-même. Les chapitres 9 et 10 de ce premier livre de Samuel sont consacrés à l'intronisation de Saül, et les chapitres 11 et 12 décrivent une succession d'événements heureux qui marquèrent le début de son règne. Puis Saül s'enorgueillit, désobéit, et Dieu annonça sa destitution.
Saül s'est donc prouvé indigne du choix de Dieu. Dieu n'aurait-il pas pu prévoir cette situation et choisir d'emblée quelqu'un d'autre?
Dieu a donné à Saül son opportunité. Au début de son règne, Saül était humble et Dieu le bénissait. Mais peu à peu, son cœur s'est rempli d'orgueil. Il s'est impatienté, 1 Samuel chapitre 13, puis il a désobéi ouvertement à l'ordre de Dieu transmis par Samuel, 1 Samuel chapitre 15. Dieu se détourna de lui et montra que l'homme selon son cœur, je cite ici 1 Samuel chapitre 13 verset 14, n'était pas celui dont la stature frappait les regards, mais c'était David, le jeune berger que Dieu avait pris dans les pâturages pour en faire le berger d'Israël, 1 Samuel chapitre 16. D'abord, ses talents de musicien furent vantés au roi Saül qui le fit venir à la cour. Puis, il vainquit le géant Goliath sur le champ de bataille, 1 Samuel chapitre 17. Il se lia d'amitié avec Jonathan, fils de Saül. Enfin, il devint un chef militaire qui conduisait toujours ses soldats à la victoire, 1 Samuel 18 à 20. C'est alors que Saül chercha à frapper David.
Frapper David? Et pourquoi l'aurait-il frappé? David s'était pourtant dévoué pour lui sur le champ de bataille.
S'il l'a frappé, c'était uniquement par jalousie. Les femmes d'Israël s'étaient mises à chanter « Saül a frappé ses 1000 hommes et David ses 10 000 ». C'en était trop pour l'esprit ambitieux de Saül qui, à diverses reprises, chercha à mettre David à mort. David dut donc fuir. Il se réfugia d'abord chez les Philistins, puis au désert, dans les forêts et sur les montagnes d'Israël, même dans les endroits les plus retirés. Là, les mécontents et ceux qui étaient dans la détresse le rejoignirent, et David devint leur chef. 1 Samuel chapitre 21 à 26 raconte ces années où David était rejeté, pourchassé, persécuté par Saül. Il fit à ce moment-là des expériences de foi dont plusieurs de ses psaumes sont l'écho, et il connut quelque chose des souffrances de Jésus-Christ lorsque ce dernier fut à son tour rejeté par les hommes. David marcha avec son Seigneur au point même d'épargner la vie de Saül lorsqu'il avait l'occasion de se venger.
Mais si David s'était vengé lui-même, il serait devenu roi d'Israël tout de suite, sans attendre?
Rien ne le prouve. Et de toute façon, l'attitude de David est un exemple pour nous. Il savait attendre l'heure de Dieu et remettre sa cause entre les mains de l'Éternel. Ne cherchons donc pas à nous justifier ou à nous venger nous-mêmes, mais croyons à notre tour que Dieu prendra soin de nous et qu'il saura, à son heure, intervenir en notre faveur. Enfin, après diverses expériences négatives, chapitres 27 et 29, et positives, chapitre 30, l'Éternel agit en faveur de David. Le roi Saül commit un grave péché en consultant une femme qui évoque les morts, 1 Samuel chapitre 28. Aussi Dieu le punit-il en permettant que ses ennemis le frappent sur le champ de bataille, 1 Samuel, chapitre 31. Il y mourut, ainsi que ses trois fils. Après cela, les hommes de Juda acclamèrent David comme roi à Hébron.
N'y avait-il pas d'autres descendants de Saül pour réclamer des droits sur le trône?
Si, Saül avait encore un autre fils, Ish-Bosheth, que le chef de l'armée établit sur le trône d'Israël à la place de Saül. Pendant 7 ans, David ne régna donc que sur le territoire de Juda, 2 Samuel 1 à 3. Puis il fut réclamé par toutes les tribus d'Israël, 2 Samuel 4. Après avoir conquis la citadelle de Sion à Jérusalem, il en fit sa capitale, 2 Samuel 5. Il y fit venir l'arche de Dieu, 2 Samuel 6, et manifesta ensuite son intention de construire un temple. Mais l'Éternel se révéla à David pour préciser que cette tâche serait réservée à son fils. Il lui parla alors de sa propre maison et du règne de son plus grand fils, le Messie, 2 Samuel 7. Et les chapitres suivants montrent une succession de victoires accordées par Dieu à David. Mais il n'a pas suffisamment veillé, et les chapitres 11 et 12 nous décrivent une profonde chute morale lorsque David tomba dans le péché de l'adultère. Dès lors, David récolte ce qu'il a semé. Il a péché dans sa vie privée. C'est dans son foyer que toutes sortes de troubles éclatent. Désordres moraux, assassinats, 2 Samuel 13 et 14, et surtout révolte d'Absalom son fils, qui forme un complot contre lui, 2 Samuel 15. David doit alors fuir Jérusalem et errer dans le désert, 2 Samuel 16 et 17, jusqu'à ce que la révolte soit conjurée, qu'Absalom soit mis à mort et que les tribus d'Israël réclament à nouveau David à leur tête, 2 Samuel 18 à 20. Il serait difficile de ne pas avoir une relation entre ces chapitres où David est trahi, où il monte le mont des Oliviers en pleurant, et ce qui arriva à Jésus-Christ, son plus grand fils, lorsqu'il fut rejeté et crucifié par les siens. Mais David fut réintégré dans son pouvoir, comme un jour Christ sera acclamé de tous, même de ceux qui l'ont percé. La fin du 2e livre de Samuel évoque du reste ce triomphe et cette gloire. 2 Samuel 22 est un cantique de louange. 2 Samuel 23 établit le palmarès des vaillants hommes de David. Et 2 Samuel 24 montre la réponse que Dieu accorda à la prière de David en faisant descendre le feu du ciel sur un sacrifice qu'il présentait. David est tout près de son Dieu qui couronne sa carrière de bénédictions évidentes et se révèle personnellement à son serviteur. Après ce rapide survol des 2 livres de Samuel, je voudrais vous inviter à lire une phrase dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Saül avait été son ennemi. Dieu l'avait frappé et David avait occupé le trône à sa place. Il chercha alors à faire du bien aux descendants de son ancien ennemi, se souvenant aussi de son ami Jonathan, fils de Saül, pour qui il avait éprouvé une très grande affection. C'est ainsi qu'il proposa ses bontés à Mephibosheth, fils de Jonathan, un infirme qui menait une misérable existence. Il lui promit de lui rendre les terres qui avaient appartenu à son père et s'engagea à le nourrir tous les jours à sa table. Quelle image merveilleuse de l'œuvre du fils de David qui, aujourd'hui, s'adresse à chacun de vous pour s'exprimer de la même manière. Reste-t-il parmi vous quelqu'un à qui je puisse faire du bien? Par nature, nous sommes ennemis de Dieu, spirituellement infirmes, parce que notre vie a été handicapée par le péché. Mais par grâce, Jésus-Christ, le Fils de David, nous offre son amour, sa réconciliation, ses bontés. Il s'engage à nous intégrer dans un héritage merveilleux. Il nous propose une nourriture substantielle que nous pourrons toujours manger à sa table. Non pas la nourriture du corps, mais les aliments spirituels pour notre âme, c'est-à-dire la parole de Dieu. Puissiez-vous tous en faire l'expérience, et que Jésus-Christ, le Fils de David, vous bénisse et vous fasse du bien.
Vous écoutez Flash sur la Bible. L'artiste Daniel Piala pour la dernière pause musicale à notre émission. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Bonne écoute.
Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'a accablé. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, où je veux te louer. Si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me sépare de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'a accablé. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Basculer, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour.
Sur la Bible.
Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis fidèles de la Radio Chrétienne Ebenezer International, voilà qui met fin à cette nouvelle édition de Flash sur la Bible qui nous a permis d'étudier trois autres livres de la Bible. Si l'émission vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions ou même des questions, soyez libre de nous les envoyer par notre adresse email et nous serons très heureux de vous lire. Notre adresse est bien francradio@podomatic.com. francradio@podomatic.com. Avant de partir, j'aimerais remercier sincèrement la Société Bible Ouverte pour sa fraternelle collaboration. Je vous rappelle bien que Bible Ouverte est un site de l'association Parole Certaine, soutenu par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Pour en savoir plus, consultez le site internet www.bible-ouverte.ch. Je répète, www.bible-ouverte.ch et pour tout autre contact, www.bible-ouverte.ch/contact.html. J'aimerais également remercier les artistes qui ont apporté leur contribution à ce programme, tels que Sonia Demelio, Joël Filin et Daniel Piala, sans oublier la société CDE à qui nous devons le générique de ce programme. Je remercie également toute l'équipe de Sephora Musique de la Vie pour leur collaboration avec la radio chrétienne Ebenezer Internationale. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de l'émission jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute inconditionnelle et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Flash sur la Bible. C'était pour vous servir au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur, votre serviteur, Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Je vous laisse apprécier une deuxième fois ce titre de l'artiste Sonia Demelio que nous accueillerons dans une prochaine édition de Mekonak. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Vous venez d'écouter Flash sur la Bible, sur la radio chrétienne Ebenezer International, Digital Gospel Journal, Your Station.
God here, new each day.
I'd like to buy a God.
What you looking for?
I'd like a nice one.
Not Zeus.
Yeah, this guy across the street is having a special, and he says...
He says the trees and cappuccinos are gods.
Well, I don't want that. How about a God that makes me rich and leaves me alone?
Good, benevolent, and impersonal. Perfect combination.
Well, I don't want him to ever control me.
How do you feel about being your own God?
To find out about the real God, check out notreligion.com.